これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Cédric Châtelus.
Et à la réalisation aujourd'hui, François Connac. Les vacances sont finies, ne croyez pas les masochistes qui les regrettent. Comment regretter l'accablant congé qui impose aux vacanciers de faire ses valises pour en remplir le coffre d'une voiture trop petite et de prendre la route au péril de sa vie pour échouer sur une plage bondée où l'attendent l'ennui et la promiscuité. Le vacancier, tel un Sisyphe en crème solaire, est un héros du mois douteux qui porte ses fardeaux jusqu'au sommet d'un monticule avant de renouer, 5 semaines plus tard, avec les habitudes qu'il a voulu suspendre. Entre-temps, il s'est ennuyé. Il a vécu l'enfer oisif, expérimenté cet avant-goût de la retraite qui, elle-même, est un avant-goût de la mort. Mais bizarrement, l'an prochain, il recommencera.
Le visage mouillé de sueur, mais le corps frais dans la légère toile qui nous habille, nous étalons tous l'heureuse lassitude d'un jour de noces avec le monde. Écrivait Albert Camus dans Noces, il avait 23 ans et célébrait le beau visage du monde. 5 ans plus tard, quand paraît le mythe de Sisyphe, le monde n'a plus de visage aux yeux de Camus. Le lyrisme qui encensait la nature méditerranéenne a laissé la place à l'élégance de la rigueur, prête à saisir ce nouveau mal du siècle que l'on nomme l'absurde. En somme, le divorce succède aux noces. Pourtant, le soleil qui irradiait Tipassa, Djemila et Florence n'a pas déserté les pages du mythe de Sisyphe, qui résonne encore comme une invitation désespérée à vivre. Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Alors,
c'est drôle d'ailleurs que vous me disiez bonjour après avoir lu votre chapeau, ce qui n'est pas l'usage en ce qui nous concerne, et ce qui me mettait presque dans la position de celui qui, vous savez, je déteste ça, les gens qui vous posent une question. Vous allez poser une question, mettons, vous avez un train à prendre, vous cherchez le quai, vous demandez à un type, excusez-moi, vous avez vu le quai machin, et le type vous répond, oui, bonjour. Vous rappelle à l'ordre, voyez, vous donne une leçon de politesse. Vous lui demandez un renseignement, vous lui demandez pas une leçon de politesse. Il n'y a pas plus mal élevé que le type qui vous donne de cette façon une leçon de politesse en vous rappelant, alors que vous êtes à la bourre, que vous avez oublié de lui dire bonjour. Pardon. Donc, c'était une entrée en matière.
Mais ce n'est absolument pas mes intentions.
J'entends bien. Ni les miennes, évidemment.
Et d'ailleurs, c'est moi qui ai une question pour vous, pas l'inverse. C'est ma question, c'est justement, puisque j'ai fait le rapprochement avec Noces, ça m'est venu assez spontanément en fait, on avait d'ailleurs déjà fait une émission, et j'ai eu l'impression que ce qu'on lit dans le mythe de Sisyphe, on le retrouve d'une certaine manière déjà dans Noces, et du coup, au lieu de penser que le mythe de Sisyphe inaugure un nouveau cycle, le cycle de l'absurde, qui succède à l'amour et qui prépare le cycle de la révolte, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt que ces trois moments sont toujours contemporains dans l'œuvre de Camus et qu'on les retrouve dès Noces, et plus tard dans l'œuvre, on les retrouvera toujours tous ensemble?
Alors effectivement, oui, je crois que vous avez raison. D'abord, il faut que je salue le fait que vous avez pointé, j'y avais jamais pensé, et c'est l'évidence, que noces, comme son nom l'indique, ce sont les grandes réconciliations avec la nature, ça s'appelle noces, et que le mythe de Sisyphe, c'est l'histoire d'un divorce. Et effectivement, le divorce arrive en bon ordre, là pour le coup, après les noces, puisque c'est le divorce c'est la confrontation entre une demande éperdue de sens et le silence qu'un homme reçoit en retour. Donc effectivement, entre Noces et le mythe de Sisyphe, il faut rappeler que Noces est le premier texte de Camus, quasiment le premier texte de Camus, il a écrit ça entre 20 et 23 ans. Noces donc précède de quelques années, 4-5 ans, le mythe de Sisyphe dans sa rédaction, dans sa conception. Et il est vrai que dans le mythe de Sisyphe lui-même, Camus présente son projet comme étant articulé en 3 temps. On en a déjà parlé d'ailleurs, mais c'est important de le rappeler pour les lecteurs et les futurs lecteurs de Camus que sont peut-être certains de nos auditeurs. Camus dit qu'il organisera son œuvre en 3 temps, qui sont l'absurde, la révolte et puis l'amour. Et que à la séquence absurde correspond l'étranger ou le mythe de Sisyphe, à la révolte correspond le malentendu, correspond l'homme révolté, et que à l'amour correspond le premier homme et ce qu'il en reste. Et l'ouvrage dont j'ai appris en lisant Jean-François Mattei que Camus devait le consacrer à Némésis, déesse de la justice et de la vengeance, qui aurait fourni à Camus manifestement le versant philologique et philosophique de ce troisième temps amoureux. Mais tout ça est faux. Tout ça est faux et c'est une erreur qu'on doit à Camus lui-même, puisque Camus lui-même a eu l'ambition, le goût de se présenter de cette façon-là. Or, il suffit de le lire, il suffit de lire Nos et de s'apercevoir que Nos et de savoir que Nos précède le mythe de Sisyphe pour comprendre que c'est pas absurde révolte amour chez Camus, mais amour absurde révolte amour. Et en réalité, je crois que vous avez raison, tous ces temps-là sont contemporains. En un sens, chez Camus. Son contemporain, vous savez, à la façon dont on a pu dire, par exemple, de la métaphysique de Plotin, tiens, qu'elle était une psychologie. Vous savez, chez Plotin, vous avez l'un bien qui est au-dessus de l'être, et puis en dessous, il y a l'intelligence, puis en dessous, il y a l'âme du monde, puis il y a les âmes, puis il y a le corps, puis la matière, ce qui reste le résidu d'être, qui n'est même plus. Et puis il y a de l'autre côté un mouvement de conversion qui va de la matière, qui s'élève de la matière à l'âme, de l'âme aux âmes, des âmes à l'âme du monde, de l'âme du monde à l'intelligence et de l'intelligence à l'un. Bon. Et en réalité, ce périple plotinien qu'on a longtemps présenté comme une trajectoire, comme le voyage d'une vie, est d'abord une psychologie. Ce sont des expériences qu'un individu, dans l'intimité de sa psychologie, peut faire. Et je crois que c'est le cas chez Camus. L'œuvre de Camus est aussi une psychologie. Au sens le plus fort. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il a dans la tête Albert Camus, si vous voulez. Ce n'est pas la psychologie d'Albert Camus, pas plus que le « je pense donc je suis », c'est le jeu de René Descartes. Non, c'est une psychologie au sens où Nietzsche pouvait dire que la psychologie reconduisait les problèmes essentiels de la pensée à la fin de la première partie de « Par-delà bien et le mal ». C'est une psychologie au sens où c'est le voyage d'une âme. C'est le voyage d'une âme qui est constamment fidèle aux intuitions qui sont les siennes. Et si Camus mêle l'amour et l'absurde dans le mythe de Sisyphe et donne déjà à entrevoir ce que sera la conversion de l'absurde en révolte, c'est parce qu'en réalité tous ces temps-là sont contemporains et sont vécus simultanément dans la durée d'un individu, Albert Camus.
Mais n'est-ce pas aussi l'exigence qu'a Camus envers les autres philosophes et la philosophie en elle-même, par exemple dans la façon dont il en parle justement dans le mythe de Sisyphe, quand il examine la philosophie de Chesthoff ou de Kierkegaard et leur logique par rapport justement... il envisage vraiment ça comme une psychologie quand il cherche la logique de la vie de Chesthoff ou de Kierkegaard par rapport à leur philosophie.
Tout à fait. Il fait en fait un travail de généalogie, c'est-à-dire qu'il se demande dans quelle mesure la complexion au sens physiologique du terme de Chesthoff ou de Kierkegaard a dicté les systèmes ou les antisystèmes qui sont les leurs. Camus était plus sensible aux antisystèmes qu'aux systèmes, il détestait Hegel. En même temps, il faut aussi se souvenir que Camus est à mi-chemin de l'étudiant modèle et de l'autodidacte. Il a été interdit d'agrégation, interdit des concours d'État, car il était tuberculeux. Et donc on le voyait mal enseigner avec cette pathologie. Bon, il a fait mieux, hein. Du coup, ça a été sa chance. Mais c'est un autodidacte aussi. En tout cas, c'est un homme qui a peut-être, et là pour le coup c'est de la psychologie de comptoir, qui a peut-être toute sa vie voulu aussi montrer les muscles qu'il avait. C'est-à-dire montrer les muscles d'historien des idées qui étaient les siens. Et c'est vrai que l'homme révolté fourmille de monographies sur le Marquis de Sade, sur Nietzsche, sur Lautréamont, qui donne un peu le sentiment aussi que Camus a envie de montrer qu'il sait lui aussi des choses et que sur le terrain de la connaissance pure de l'histoire des idées, on ne pourra pas le prendre en défaut. Donc il y a ces deux dimensions. Mais la lecture qu'il propose de Chesthoff, de Kierkegaard, qu'on trouve dans le ventre mou du mythe de Sisyphe, c'est-à-dire dans ces moments qu'on ne lit pas en général dans le mythe de Sisyphe, cette lecture-là est d'abord dictée par le souci de situer une pensée, d'ancrer une pensée dans un corps, et dans le corps des philosophes qu'il cite ici.
Lorsque vous parlez de ventre mou, justement, puisque vous parlez de corps et de complexion, vous parlez de ventre mou du mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'il y a une lecture, selon vous, qui consisterait à lire que le début, puis la fin? Et puis se contenter de cela ?
Oui, mais ce n'est pas selon moi. C'est que c'est d'expérience. Si vous parlez aux camusiens ou non-camusiens, aux gens qui ont lu le mythe de Sisyphe, ceux qui l'ont lu vraiment se souviennent en général de la première phrase. Hein. Bon, il n'y a qu'une seule préoccupation philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. Bon, c'est facile à retenir. C'est un peu comme « longtemps je me suis couché de bonheur », si vous voulez. Là, c'est « longtemps j'ai pu me suicider de bonheur ». Donc c'est bien. Donc on retient en général le début flamboyant, fulgurant, et la fin, avec la parabole de Sisyphe, puisque c'est la seule évocation de Sisyphe dans ce livre éponyme, se trouve à la fin du livre, retour à Sisyphe, où on le voit pousser son caillou en haut de la montagne avant qu'il ne retombe de l'autre côté. Et c'est vrai qu'en général, on lit le début et la fin, et on néglige le milieu.
Sisyphe, comme le mythe du même nom.
Premier étage.
Troisième étage.
Cinquième étage. Troisième étage. Sixième étage.
Cinquième étage.
Cinquième étage.
Huitième étage.
Sixième étage.
Septième étage.
Deuxième étage.
10e, 11e, 12e, 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 12e Toujours pareil. L'homme révolté, ceux qui l'ont lu se souviennent qu'au début, l'homme révolté dit non, mais s'il dit non, c'est qu'il a dit oui d'abord. Et puis à la fin, on retrouve la pensée de midi, l'éloge à René Char. Ceux qui connaissent un peu Camus s'y retrouvent. Au milieu, c'est toujours un peu plus flou, un peu plus confus. En gros, on ne l'a pas lu. Et je connais d'excellents camusiens qui n'ont jamais lu le milieu du mythe de Sisyphe. Jamais. Et c'est une particularité de Camus, c'est-à-dire que ses deux meilleurs livres, ses deux meilleurs essais, les deux seuls peut-être, que sont le mythe de Sisyphe et l'homme révolté, ne valent dans la conscience collective et historiquement que par leur début et leur fin, alors qu'il y a des choses magnifiques au milieu.
Et je me demande simplement comment ils font pour comprendre du coup cette question du suicide, parce que, en tout cas du souvenir que j'en ai, il n'y répond vraiment, cette question, seule question qui vaut la peine d'être posée, donc la question du suicide, il n'y répond pas du tout dès le premier chapitre. Il la laisse en suspens pendant toute une période où il parle justement de Kierkegaard, chez Stoff, Husserl, et puis ensuite il y répond.
Bien sûr, mais vous savez comme moi qu'une philosophie ne vaut pas tant par les réponses qu'elle apporte que par le trouble qu'elle induit chez son lecteur. Et c'est vrai qu'un lecteur qui prend le mythe de Sisyphe et qui se dit « Tiens, voilà quelqu'un qui pose la vraie question ». C'est-à-dire, le monde n'a pas de sens, il n'est pas là pour me faire plaisir, qu'est-ce que j'y fais ? Qu'est-ce que j'y fais ? Pourquoi ne pas m'y tuer ? Pourquoi m'y tuer aussi ? Celui-là se prend de face cette question qu'il sait fatalement poser à lui-même. Qu'il y ait répondu ou non, négativement parce qu'il a adhéré à l'idole religieuse, positivement parce qu'il est nihiliste, peu importe si vous voulez. En tout état de cause, c'est une question que tout le monde s'est posée à un moment de la vie. Et Camus la prend en charge dès le début du mythe de Sisyphe. C'est pour ça que c'est si frappant. Mais vous savez, Paola, c'est ça qui est fou avec Camus, c'est que c'est un peu comme Madame Bovary, quoi. On fait lire Madame Bovary à des élèves de 4e, de 3e, de 2e, c'est fou. Je veux dire, c'est fou. On n'est pas du tout armé pour comprendre un tel livre à cet âge-là. On fait lire le mythe de Sisyphe à des adolescents qui entrent en terminale. C'est fou aussi. Alors, peut-être qu'un adolescent qui entre en terminale est plus, comment dire, a moins interposé d'habitude et de routine entre lui-même et le sentiment de son propre vertige, et qu'à cet égard, il est plus sensible à la prose camusienne. Peut-être qu'on est mieux armé quand on sait rien du tout de la vie et qu'on est juste désespéré pour lire Camus que quand on a recouvert sa propre ignorance d'un vernis de connaissances ou de philologie. Le fait est que ce que le mythe de Sisyphe nous apprend, c'est pas grand-chose, dans la mesure où on sait déjà tout ce qu'il a à nous dire, en un sens. Ce que je veux dire, c'est ça qui est frappant quand on lit le mythe de Sisyphe. Mettons qu'on ait 18 ans quand on le lit, vous, moi, quand j'avais votre âge, on découvre une chose, c'est que, enfin, on s'en aperçoit plus tard, ça, c'est que la vie ne nous apprend rien. La vie ne nous apprendra rien. Vous n'en saurez pas plus tard. Vous réagirez moins lentement. Peut-être vous désirerez moins souvent. Si vous êtes maligne, vous ferez passer cette réduction de vos forces pour une augmentation de votre sagesse, genre gagnant-gagnant. Mais on s'arrange comme on peut, si vous voulez, avec la vie. Mais ce que dit le mythe de Sisyphe, à savoir le monde est absurde et pourquoi ne pas se tuer, le problème qu'il pose là n'est pas soluble dans une réponse.
Et Camus en fait profession d'ailleurs, puisqu'il parle lui-même d'évidence dès le début. Et puis c'est ainsi qu'il commence le chapitre qui se nomme « La liberté absurde ». Il dit « Je tiens quelques évidences dont je ne peux me détacher ».
Oui, quelques évidences. Mais ces évidences, c'est ça qui est intéressant. « Évidence » est le nom que Camus donne à ces vérités qui doivent pourrir. Voilà. Qu'est-ce qu'une évidence ? C'est une vérité qui doit pourrir, c'est-à-dire c'est une vérité du corps. Rien n'est plus évident que le corps, rien n'est moins douteux que le corps, c'est le cogito camusien. Il y a un cogito camusien. Camus n'est pas du tout cartésien, sauf par ça. Il y a un cogito camusien, et c'est un cogito corporel, et c'est ça qu'il appelle l'évidence. Rappelons que le mot d'évidence a trouvé ses lettres de noblesse avec Descartes, justement. Et Camus le reprend à son compte pour montrer qu'il y a là quelque chose d'irréductible. Mais ce quelque chose d'irréductible n'est pas une chose métaphysique, à la façon cartésienne. C'est au contraire un corps. Voilà.
Et pourtant, il y a une démarche qui peut faire penser à la démarche des méditations métaphysiques. En tout cas, juste dans la démarche, il y a une véritable méthodologie. On avance, on tâtonne, on
progresse. On tâtonne, on élimine, on élimine les hypothèses qui ne sont pas recevables et on voit ce qui résiste. Et ça, c'est de la bonne méthode cartésienne. Oui, oui, effectivement. Et on retrouve cet écho du cartésianisme camusien, cartésianisme méthodologique de Camus, dans L'homme révolté, quand il dit « je me révolte, donc nous sommes ». Ce qui est une façon pour Camus de plaire aux étudiants, mais en même temps, on sent bien qu'il y a chez lui l'ambition de voir ce qui résiste à un regard enfin lucide sur les choses et sur le monde, de voir ce qui tient. Et ce qui tient, c'est ça qui est génial chez Camus, c'est là, au fond, en définitive, après de longues traversées, c'est la candeur et c'est la joie de vivre. Et c'est ça qui est fou, d'où l'épigraphe.
Celui de Pindare qui ouvre, on peut le faire entendre quand même.
Ah oui, oui, bah allez-y.
« Ô mon âme, n'aspire à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. »
Ouais, ça c'est la traduction de Puech. « Ô mon âme, n'aspire à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. » C'est dans la troisième pitique de Pindare. Je dis que c'est la traduction de Puech parce qu'on aurait pu dire au Dieu bien des choses en somme. Écoutez ça. « N'aspire point, ô mon âme, à une existence immortelle et n'assume aucune œuvre que tu ne puisses parfaire. » Ô mon âme, n'affecte point l'immortalité, emploie tes efforts à quelque œuvre possible. Ou encore, ne souhaite point, ô mon âme, une existence immortelle et n'entreprends rien que tu ne puisses accomplir. Ou encore, ô mon âme chère, n'aspire pas à la vie éternelle mais épuise le champ du possible. Ou encore, ne souhaite pas, ô mon âme, une vie immortelle et supporte une vie possible à exécuter, etc. J'ai même trouvé, âme, mamie, ne t'inquiète pas trop d'une vie immortelle et endure l'efficace organisée.
Mais il y a une véritable différence entre épuise le champ des possibles, qui est presque un ordre, et la défense qui est de ne pas entreprendre quelque chose qu'on ne pourrait pas finir, qu'on ne pourrait pas parfaire.
Tout à fait.
On comprend pourquoi Camus a choisi...
Mais absolument, cette injonction est très intéressante parce que, ô mon âme, on le reprend dans la traduction de Puech, celle qui est en épigraphe du mythe de Sisyphe. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. Camus commence par une interdiction, enfin une interdiction.
Un conseil.
Oui, enfin, un déconseil vibrant. N'aspire pas à la vie immortelle, s'il te plaît. Sois sage, ô mon âme, hein, et tiens-toi donc tranquille, n'aspire pas à la vie immortelle. Et après, il dit, mais épuise le champ du possible. En d'autres termes, c'est parce qu'il appartient à l'âme d'épuiser le champ du possible que l'aspiration à la vie immortelle n'a aucun sens et n'a aucune raison d'être. Et ça, c'est tout Camus. De la même façon que le secret de la révolte, c'est l'amour. Qu'en amont de l'absurde, il y a déjà l'amour. Qu'on dit oui avant de dire non, même quand on dit non en premier. Eh bien là, nous renonçons à la vie immortelle parce qu'il nous appartient d'épuiser le champ du possible. Et au fond, le mythe de Sisyphe parcourt cette citation à rebours, en montrant comment on épuise le champ du possible avant justement de ne plus aspirer à la vie immortelle, à une sorte d'au-delà aussi confortable qu'inexistant.
Je tiens quelques évidences dont je ne peux me détacher. Ce que je sais, ce qui est sûr, ce que je ne peux nier, ce que je ne peux rejeter, voilà ce qui compte. Je peux tout nier de cette partie de moi qui vit des nostalgies incertaines. Sauf ce désir d'unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et de cohésion. Je peux tout réfuter dans ce monde qui m'entoure, me heurte ou me transporte, sauf ce chaos, ce hasard roi et cette divine équivalence qui naît de l'anarchie. Je ne sais pas si ce monde a un sens qui le dépasse. Mais je sais que je ne connais pas ce sens et qu'il m'est impossible pour le moment de le connaître. Que signifie pour moi une signification hors de ma condition? Je ne puis comprendre qu'en termes humains. Ce que je touche, ce qui me résiste, voilà ce que je comprends.
C'est bien écrit quand même. C'est quand même remarquable. Ce jeune homme de 27 ans qui s'impose avec une telle autorité dans la République des Lettres, on peut comprendre qu'il en ait agacé quelques-uns, non?
Oui, certainement. Bon. Non, oui, je n'étais pas entièrement à votre question parce que je pensais à ces dernières phrases. Je ne puis comprendre qu'en termes humains, ce que je touche, ce qui me résiste, voilà ce que je comprends. C'est étonnant parce que...
On retrouve l'intuition cartésienne, hein.
Oui, voilà. Et en même temps, tellement loin de toute métaphysique, en réalité, presque, on dirait qu'il se limite dès le début de l'œuvre, comme ça, avec ses négations. Je ne puis comprendre qu'en termes humains.
Il faut, encore une fois, revenir un tout petit peu sur Descartes. Hein. Quand on dit qu'il est cartésien, on le dit en ce sens-là, en un sens vraiment méthodologique. Hein. Descartes, par le doute hyperbolique, systématique puis hyperbolique, cherche le récif, la résistance à la révocation universelle de tout ce qui n'est pas absolument certain. C'est là qu'il trouve le cogito, le sentiment de son existence. Bon, Camus fait la même chose. « Je peux tout nier », il le dit, « je peux tout nier, sauf ce désir d'unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et de cohésion. » C'est ça le cogito. « Je peux tout réfuter. » Je peux tout réfuter dans ce monde qui m'entoure, sauf que, il reste quelque chose, et que ce quelque chose, c'est l'existence. C'est le fait d'être en vie, c'est le fait d'être vivant, et d'être par là même bien vivant. Mais ce qui est fort, c'est quand il dit, et vous avez raison de le pointer, « je ne puis comprendre qu'en termes humains ». Et ça, c'est très fort chez Camus, et je crois qu'on touche du doigt peut-être le fond du problème. Camus ne comprend qu'en termes humains. Il élabore une pensée à hauteur d'homme. C'est la raison pour laquelle il ne s'intéresse qu'aux vérités qui doivent pourrir, c'est-à-dire aux vérités que la physiologie condamne un jour à disparaître. Il y a plus de vérité dans l'amour ou dans le désir qu'on porte à quelqu'un que dans une équation qui se passerait volontiers de nos organes. Bon. Donc, il y a chez Camus cette claire ambition. C'est très frappant dans ce texte-là. Il y a cette ambition de penser à hauteur d'homme. Or, le système qu'il met en place, les considérations qu'il met en place, l'ontologie, le discours sur l'être et sur les choses qu'il instaure, est un discours qui, lui, n'est pas à hauteur d'homme. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que Emmanuel Kant est plus facile à lire que Camus en un sens. En un sens, il ne l'est pas. Je vous accorde que la critique de la raison pure, c'est plus difficile à lire que le mythe de Sisyphe. Mais c'est plus difficile techniquement. En revanche, c'est plus facile à accepter. Parce que fait Kant? Il pense à hauteur d'homme. Il constitue le moi comme une fiction utile à la connaissance. Il parle du « je ». Mais il fabrique un système adapté aux moyens qu'il se donne. C'est une philosophie du sujet où la critique de la connaissance, le deuil de la vérité, s'articule à une ambition à l'ambition de donner un sens à la vie, de donner un sens au monde, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a chez Kant une conformité des moyens qu'il se donne, une pensée du sujet, et de l'ambition qui est la sienne, qui est de trouver du sens. Bien. Or, chez Camus, on est à hauteur d'homme, comme chez Kant. Mais l'ontologie qui va avec, elle est inhumaine. Inhumaine. Le monde est silencieux. Et il insiste là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a même chez Kant, de temps en temps, Kant dit un jour que l'existence n'est pas démontrable. Et donc on peut se dire, tiens, c'est la naissance des philosophies de l'absurde dans la critique de la raison pure. C'est un peu vrai. Mais Kant ne renonce jamais à l'ambition de donner un sens à notre vie. Camus s'y prend tout à fait différemment. Il y a rupture chez Camus entre les outils qu'il se donne et l'ambition qui est la sienne. Et ça, c'est la difficulté de Camus. Il y a une tension entre les deux chez ce philosophe qui est pourtant tellement fidèle à lui-même. Il y a une tension. La difficulté chez Camus n'est pas dans ce qu'il dit. Elle est dans ce qu'il demande. Dans ce qu'il demande à son lecteur, dans ce qu'il demande à l'homme. Dans l'effort qu'il demande à un homme qui n'est pas fait pour de s'adapter à un monde où il est forcément dans la condition de l'exilé, de l'étranger.
C'est ainsi, par exemple, lorsqu'il dit « la raison est vaine », on pourrait l'accepter si on était, par exemple, pascalien, qu'on se disait « mais il y a quelque chose au-dessus de la raison ». Et il nous dit « la raison est vaine, mais rien n'est au-dessus de la raison ».
Exactement. La raison est vaine, mais rien n'est au-dessus de la raison. Débrouillez-vous avec ça. Voilà. Accrochez-vous avec ça. C'est aussi en ça que Camus est un humaniste. Il n'est pas humaniste au sens où il le dit lui-même. Je sais plus. Il parle de la sensiblerie humaniste. Je sais plus. De ses idées générales, de ses bons sentiments, etc., etc. Qu'il trouve dangereux, sinon stupide. Donc, il n'est pas du tout humaniste au sens bien pensant du terme, au sens où les hommes seraient tous frères et où il faudrait s'entendre et où le bien c'est mieux que le mal, si vous voulez. Il n'est pas humaniste bêtement. Non. C'est un humaniste façon Jean Grenier. Jean Grenier, c'était son professeur et c'était son maître. Et c'est celui dont le texte « Les îles » a donné le jour aux noces. Il est humaniste façon Grenier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse les idées générales, critique les bons sentiments, mais pense à hauteur d'homme, malgré tout. Il élabore une ontologie de la dissipation du sujet, le moi est perdu, l'acte de pensée est soluble dans le désert où nous nous trouvons, etc., etc. Et dans le même temps, il maintient une connaissance attachée aux vérités qui doivent pourrir, une connaissance à hauteur d'homme. Et vraiment, cette double appartenance fait de lui, parmi les humanistes, le plus singulier, le plus original et peut-être le plus exigeant, parce que c'est celui qui ne s'abrite jamais derrière une idée générale pour penser la situation qui est la sienne, et le fait d'être jeté là sans savoir pourquoi.
Si j'étais arbre parmi les arbres, chat parmi les animaux, cette vie aurait un sens, ou plutôt, ce problème n'en aurait point, car je ferais partie de ce monde. Je serais ce monde auquel je m'oppose maintenant par toute ma conscience et par toute mon exigence de familiarité. Cette raison si dérisoire, c'est elle qui m'oppose à toute la création. Je ne puis la nier d'un trait de plume. Ce que je crois vrai, je dois donc le maintenir. Ce qui m'apparaît si évident, même contre moi, je dois le soutenir. Et qu'est-ce qui fait le fond de ce conflit, de cette fracture entre le monde et mon esprit, sinon la conscience que j'en ai ? Si donc je veux le maintenir, c'est par une conscience perpétuelle, toujours renouvelée, toujours tendue. Voilà ce que, pour le moment, il me faut retenir. À ce moment, l'absurde, à la fois si évident et si difficile à conquérir, rentre dans la vie d'un homme et retrouve sa patrie. À ce moment encore, l'esprit peut quitter la route aride et desséchée de l'effort lucide. Elle débouche maintenant dans la vie quotidienne. Elle retrouve le monde de long anonyme, mais l'homme y rentre désormais avec sa révolte et sa clairvoyance. Il a désappris d'espérer. Cet enfer du présent, c'est enfin son royaume.
Vous voyez, il dit « Si j'étais arbre parmi les arbres, chat parmi les animaux ». Je vous ai parlé tout à l'heure de l'influence de Jean Grenier, elle est là. Elle est là. Il ne dit pas « animal parmi les animaux », il dit « chat ». C'est l'animal par excellence. Et vous avez dans Les Îles, le texte que Camus a préfacé ensuite, en disant toute l'admiration et l'amour qu'il porte et à ce texte et à son auteur, vous avez dans Les Îles un chapitre magnifique, je dois dire, sur le chat Mouloud, à qui il arrive des tas d'aventures et dont Jean Grenier raconte la vie et la mort. Vie et mort du chat Mouloud. Et parmi ces et à l'intérieur de ce texte, Grenier écrit ceci. Mouloud est heureux. Prenant part au combat que se livre éternellement le monde avec lui-même, il ne perce pas l'illusion qui le fait agir. Il joue et ne songe pas à se regarder jouer. C'est moi qui le regarde. Et je suis enchanté de lui voir remplir son rôle avec une précision de mouvement qui ne laisse place à aucun vide. À tout instant, Mouloud est tout entier dans son action. S'il désire manger, ses yeux ne quittent pas les plats qui sortent de la cuisine et trahissent une si violente envie qu'on l'imaginerait transportée dans la nourriture même. Et s'il se pelotonne sur les genoux, c'est avec l'application de toute sa tendresse. En vain, je cherche un hiatus. Ses actes coïncident avec ses mouvements avec ses appétits avec ses images. C'est une chaîne sans fin. Si le chat allonge sa patte à moitié, c'est qu'il est nécessaire qu'il l'allonge et qu'il l'allonge seulement à moitié. Le contour le plus harmonieux des vases grecs n'a pas cette nécessité.
Et le « Quand je danse » de Montaigne.
C'est pareil. Dans le chapitre sur l'expérience de Montaigne, qu'on va étudier cette année, « Quand je danse, quand je dors ». En d'autres termes, le chat est tout entier contemporain de lui-même, et c'est cela que Camus désigne par la condition animale. C'est cela qu'il envie. Le mot d'envie est très inadapté à la parole de Camus, puisque Camus, comme vous savez, est affecté de tous les défauts du monde. Il y en a deux qu'il n'a pas, c'est la haine et l'envie. Parce qu'il a grandi dans une enfance, dans une misère que le soleil a préservée de l'envie, comme il dit dans L'envers et l'endroit. Et la haine, parce que il n'a pas de haine. Voilà. Il ne s'en trouve pas, il n'en connaît pas. C'est dans les lettres à un ami allemand, on s'en aperçoit. Mais, En revanche, il a de l'admiration et il a de la fidélité. Et quand il dit « chat parmi les animaux », c'est-à-dire le fait qu'il singularise dans le règne animal le chat, c'est évidemment une référence à ce texte et je crois même à ce passage. Au fond, ce qui se passe avec les animaux, c'est que les animaux n'ayant pas conscience, n'étant pas dans la conscience, ne se désolidarisent pas du monde avec lequel ils ont ensuite à se réconcilier, ce qui est notre drame.
C'est le hiatus dont parle Jean Grenier et qu'il cherche en vain dans le comportement du chat. C'est ce que nomme.
Ce qu'on cherche en vain dans le comportement
c'est
du
la
chat,
conscience, oui, voilà.
On le subit quand on est un humain. On le subit. On chercherait vainement dans le comportement du chat un hiatus entre lui et le monde. Il est tout entier à ses affaires et à ce qu'il fait. Au moment où il le fait, ce décalage, cet abîme qui fait qu'on ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, entre ce qui nous arrive et ce qu'on éprouve, ou le temps qu'on met, par exemple, à éprouver quelque chose qui nous arrive, ce décalage-là, où la conscience trouve sa source, le décalage entre le fait d'avoir faim et le fait de manger, par exemple, enfin bon, ce décalage constitutif donne le jour à la conscience, à l'identité et par là même à la métaphysique. Il y a chez Camus une histoire implicite de la métaphysique comme le récit de cette erreur natale.
Alors, vous avez juste mentionné en passant l'étranger, le comportement de Meursault à l'enterrement de sa mère. J'ai une question toute bête, c'est est-ce qu'il faut vraiment voir l'étranger comme l'application romanesque du mythe de Sisyphe?
Oui et non. Non, parce que l'étranger n'est pas un roman théorique, contrairement à ce que ses détracteurs veulent en dire. Donc bien sûr que non, c'est un roman. C'est un roman qu'on peut lire comme l'aventure d'un homme qui s'appelle Meursault et qui, en apparence, n'éprouve pas grand-chose, alors qu'en réalité, quand on lit le livre de près, on s'aperçoit qu'il est pétri d'émotions. Bon, donc non. Mais, en même temps, écoutez Camus dans le mythe de Sisyphe. Dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Cet exil est sans recours, puisqu'il est privé des souvenirs d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Autrement dit, être étranger. Chez Camus, ça recouvre une infinité de significations, en tout cas plusieurs. Ça peut vouloir dire, mais on peut en retenir deux, ça peut vouloir dire, un, être étranger aux autres hommes. Et de fait, Meursault est toujours en position d'étrangeté par rapport aux hommes, d'étrangèreté. Il est toujours vécu ou vu, perçu comme l'étranger. C'est celui qui est jugé par le tribunal des vieillards la nuit où il veille sa mère, le cadavre de sa mère, comme il est jugé par le bon peuple de France, ses journalistes et ses juges, après le meurtre de l'arabe. Il est toujours de côté. C'est un homme qui ne ment jamais et qui, ne mentant jamais, se voit mis en marge d'une société qui a besoin pour vivre d'un certain nombre de mensonges utiles. Donc il est condamné pour cette raison et il est à cet égard, dit Camus, le Christ que nous méritons. Meursault, cet étranger, est également étranger, non pas aux hommes, mais au monde. Mais être étranger, Paola, c'est aussi être étranger à un monde qui n'est, comme le dit Nietzsche et on l'a abondamment cité, pas là pour nous faire plaisir. C'est éprouver son existence sur le mode de l'étrangeté. Voilà. Éprouver le fait d'exister sur le mode de l'étrangeté. Le sentiment de... Et au fond, c'est tout le rapport à Dieu qui est en jeu là-dedans. Très, très simplement, hein, si Dieu est transcendant, il a forme humaine. Quand Dieu est dans l'au-delà, si vous voulez, il a le visage d'un homme. Il a forme humaine, en tout cas, il a entendement, volonté, décision, justice, bonté, colère, etc., etc. Il est anthropomorphique. Plus Dieu s'élève dans le ciel, plus il ressemble à l'homme. Plus Dieu, décision spinoziste, est identifié à tout ce qui existe, n'est pas séparable, moins son idée est séparable de tout ce qui existe, mais au contraire, plus Dieu ressemble à tout ce qui est. Bref, plus nous faisons partie, comme dit Spinoza, de l'entendement infini de Dieu, moins Dieu nous ressemble. Car le monde est alors rendu à son silence. Et c'est là qu'on est en situation d'étrangeté. Et c'est exactement le cas chez Camus. Peu importe qu'on appelle Dieu la nature ou la nature Dieu, c'est pas la question. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'à partir du moment où il n'existe rien au-delà de ce qui existe, le fait d'être au monde impose l'épreuve à tout homme qui s'y trouve de se sentir étranger. Et ça, c'est une épreuve qu'on peut faire dans des petites expériences quotidiennes. C'est la rentrée en ce moment. On est fin août à l'heure de cet enregistrement. L'émission passera début septembre. Et c'est intéressant la rentrée. Alors, on est arrivé à Radio France aujourd'hui. On a revu des bons amis qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On a discuté un peu avec eux, etc. Les gens qu'on a vus monter dans le train. Donc ils avaient cet apaisement, ce soulagement en quoi consiste la nécessité de faire quelque chose. La contrainte, si vous voulez. Leurs vacances avaient un sens puisqu'elles s'achèvent sur un devoir, une tâche. Et puis il y a aussi, dans la rentrée, des gens qui, soit parce qu'ils en ont fait le choix, soit parce qu'ils n'ont pas de travail, tout simplement, n'ont pas cette bonne fortune, n'ont pas cette chance, n'ont pas cet apaisement supérieur en quoi consiste la nécessité de travailler. Et ceux-là sont plus aisément confrontés, justement, à l'espèce d'étrangeté que décrit Camus. Parce que la meilleure façon d'accéder à l'étrangeté ontologique, tu vois, cette grande décision ontologique fondamentale de l'étrangeté de l'homme, l'un des chemins les plus courts pour y parvenir, c'est de se dire « Tiens, je suis sur le quai et les autres sont montés dans le train. » Voilà. À moi d'en tirer tout ce que je peux retirer de cela, à moi de ne pas verser dans le désespoir, mais à moi de tirer le meilleur de cette situation nouvelle, de cette position singulière au sein des hommes qui travaillent, c'est à moi qu'il appartient de le faire. C'est la position de l'étranger. C'est la position de l'étranger parce que c'est une position qui conduit ensuite au sentiment qu'au fond, le monde entier n'est pas là pour moi. Que je travaille ou non. Mais il est intéressant pour ça d'imaginer un instant la position de celui qui a le sentiment que le train est parti sans lui, si vous voulez, pour comprendre ce qu'il appelle étrangeté.
Oui, je reviens juste sur ce que vous disiez sur l'anthropomorphisme, parce qu'à un moment, dans le mythe de Sisyphe, Camus dit à quel point serions-nous réconciliés avec nous-mêmes et contents si on pouvait reconnaître dans l'univers des désirs, des caprices, un visage en somme à l'univers.
Comme on aimerait que le monde nous ressemble, comme on aimerait que le monde soit fait à notre mesure, comme on aimerait que le monde soit taillé pour nous. Alors, la meilleure façon qu'on a trouvé d'avoir un monde qui ressemble, qui nous ressemble, c'est de le façonner à notre main. Reste qu'il y a dans l'existence de ce qui existe quelque chose de rétif à nos entreprises et à notre donation de sens. Et c'est cette résistance, et c'est la rencontre de cette résistance avec le désir qui la contrarie, que Camus appelle l'absurde. Il faut bien préciser ici quand même, parce qu'on fait comme si c'était évident, mais après tout le monde ne le sait pas, il faut bien préciser ici que l'absurde, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. L'absurde, c'est une confrontation. C'est une confrontation entre une demande de sens et un silence en retour. On ne le dira jamais assez. Et c'est une confrontation dont l'origine, d'ailleurs, dont l'intuition lui vient peut-être de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le fait que chez Camus, il y a une double appartenance. Il est humaniste parce qu'il pense à hauteur d'homme, et son ontologie ne l'est pas, car il en assume justement l'inhumanité, la froideur. Dans Le Gai Savoir, paragraphe de Nietzsche, dans le livre Le Gai Savoir, « Nous avons été aiguisés, nous sommes devenus froids et durs à force de reconnaître que rien ici-bas ne se passait de façon divine, pas même selon les critères humains, de façon raisonnable, miséricordieuse ou équitable. Nous le savons, dit Nietzsche. Le monde dans lequel nous vivons est non divin, immoral, inhumain, et il le met entre guillemets. Nous l'avons trop longuement interprété de façon mensongère, mais interprété selon le désir et le vouloir de notre vénération, c'est-à-dire selon un besoin, car l'homme est un animal qui vénère. » Qu'est-ce que ça donne, ça, chez Camus, dans le mythe de Sisyphe? Ça donne ceci. « L'homme absurde, écrit Camus, entrevoit ainsi un univers brûlant et glacé, transparent et limité, où rien n'est possible, mais tout est donné. Passé lequel, c'est l'effondrement et le néant. » Et un peu plus loin, il dit « Comprendre, c'est avant tout unifier. Le désir profond de l'esprit, même dans ses démarches les plus évoluées, rejoint le sentiment inconscient de l'homme devant son univers. Il est exigence de familiarité, appétit de clarté. Comprendre le monde pour un homme, c'est le réduire à l'humain, le marquer de son sceau. L'univers du chat n'est pas l'univers du fourmilier. Le truisme, toute pensée est anthropomorphique, n'a pas d'autre sens, dit-il. C'est fou ce que cet homme est nietzschéen à cet instant-là. C'est-à-dire qu'il montre qu'au fond, toute ambition de penser, elle est anthropomorphique parce qu'elle est gouvernée par le désir de donner du sens ou de se familiariser avec le monde ou de familiariser le monde avec moi. Et vous vous souvenez, dans Nos, il y a des moments où il n'y a rien d'humain dans ce monde qui nous entoure. Mais de temps en temps, il parle du ciel et il dit le premier sourire du ciel. Et il y a là une confusion. Alors, les camusiens les plus orthodoxes vous diront « mais c'est pas du tout de l'anthropomorphisme, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est de la poésie, on est au quatrième degré, il fait pas d'anthropomorphisme quand il parle de sourire du ciel, il n'humanise pas le ciel. » Bon, ok. Bon, on peut être un peu charitable aussi et considérer que peut-être il y a un petit peu de romantisme chez Camus, il y a un petit peu de lyrisme après tout chez Camus. Il avait aussi envie de voir un visage dans le ciel, même s'il ne le voyait pas. Il devait peut-être s'amuser à repérer des profils dans la forme des nuages, cet homme-là. Je veux dire, on n'est pas forcément radical. Même quand on a entrevu l'absurde et qu'on ne peut plus l'oublier, on peut aussi de temps en temps céder à la douceur d'un confort, d'un bien-être, d'un peu d'égoïsme, de ce qu'il appelle l'individualisme altruiste. Regarder le monde avec des yeux d'humain et on n'est pas obligé de consentir en permanence à l'inhumanité du monde. On a aussi le droit de trouver qu'il y a dans le monde des échos d'humanité, ou en tout cas de se les imaginer et de se faire plaisir en le faisant. Et il n'y a là rien de répréhensible, mais ça n'est pas répréhensible à la condition de ne jamais oublier que, comme il dit, au fond de toute beauté gît quelque chose
d'inhumain.
Et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. Je veux dire, c'est limpide, non ? C'est limpide, c'est vraiment ça, c'est ça que ça veut dire, ça ne veut dire que ça, ça veut dire ça. On essaye désespérément, tant qu'on est en vie, d'adapter le monde au désir qu'on en a. On essaye un peu, autant que possible, quoi, de façonner le monde avant d'en venir à la philosophie, c'est-à-dire à la réforme de la nature même de son désir et à l'art de consentir à ce qui jusque-là nous semblait monstrueux parce que ça n'était qu'inhumain. Il faut bien comprendre que « inhumain » ici désigne chez Camus non pas la monstruosité, même si ça peut vouloir dire ça, on le verra un peu plus loin. « Inhumain » signifie « non humain ». Voilà, tout simplement.
Et les hommes aussi sécrètent de l'inhumain, poursuit-il.
Voilà, c'est-à-dire que « inhumain » chez Camus, il y aurait un lexique de Camus à faire là, parce qu'avec des nuances infinies et des vraies ramifications extrêmement subtiles. « Inhumain » désigne la table. Le livre, bon, mauvais exemple, mais la table, la fenêtre, le micro, vos lunettes, pardon, hein, c'est inhumain, tout ça. C'est pas humain, ça ne vit pas, ça n'existe pas. C'est, mais ça n'existe pas. Pour parler le Sartre, si vous voulez, c'est sans exister. C'est mort, c'est pas humain, c'est silencieux, ça s'en fout. Vous pouvez jeter vos lunettes tout à l'heure, ça ne fera rien vos lunettes. Vous, ça vous gênera. Mais ça ne fera rien vos lunettes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Donc, inhumain désigne d'abord une qualité de l'être. Non, proprement, ontologiquement, inhumain. Inhumain désigne une partie de l'humanité elle-même. C'est-à-dire la monstruosité. Or, ce qui est très fort, là, pour le coup, chez Camus, c'est que... ce que Camus affirme quand il parle de l'inhumanité des hommes, cette fois-ci, et non plus de l'inhumanité des choses, c'est qu'il dit que ce qu'il est important de remarquer, c'est que l'inhumanité des hommes est humaine. Et qu'il est justement essentiel de le constater. C'est-à-dire qu'autant ontologiquement, il est essentiel de repérer que le monde, d'un côté, est silencieux et l'homme, face à lui, essaie de le faire parler, enfin, fait ce qu'il peut à l'intérieur de ce silence difficile à assumer, à digérer, et qu'on a abondamment recouvert de nos occupations, de nos préoccupations, des métiers qu'on se donne, etc., etc. Et l'inhumanité des hommes, alors là, pour le coup, il est essentiel de considérer qu'elle est proprement humaine. Vous avez dans Les cerfs-volants de Romain Gary une phrase très belle, il dit « Ce qu'il y a d'affreux dans le nazisme », il raconte l'histoire de Ludovic qui, pendant la guerre, est un résistant exemplaire, comme l'était Gary. Écoutez Gary, ce qu'il y a d'affreux dans le nazisme, c'est son côté inhumain, oui, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Ce côté inhumain fait partie de l'humain. Tant qu'on ne reconnaîtra pas que l'inhumanité est chose humaine, on restera dans le mensonge pieux. Et vous avez dans Les cerfs-volants toujours un personnage, ça ne s'invente pas, qui s'appelle Julie Espinoza, avec un E devant, bon, qui dit « Le blanc et le noir », c'est une mère maquerelle, qui est en fait une grande résistante et qui en même temps pourvoit les nazis en prostituées. « Le blanc et le noir, il y en a marre, dit-elle. Le gris, il n'y a que ça d'humain. » Et un peu plus loin,
Une idée était venue depuis longtemps se loger dans mon esprit, dont j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser par la suite, et peut-être m'en suis-je jamais débarrassé entièrement. Les nazis étaient humains, et ce qu'il y avait d'humain en eux, c'était leur inhumanité. Un peu plus loin, la femme qu'il aime, Lila, est tondue à la résistance parce qu'elle a couché avec l'occupant. Réflexion de Romain Gary. Plus tard, lorsque je pus penser, ce qui demeura au-delà de l'horreur, ce fut le souvenir de tous ces visages familiers que je connaissais depuis mon enfance. Ce n'étaient pas des monstres, et c'était bien cela qui était monstrueux. Donc, je crois que c'est ça qui est important, puisqu'on parle d'inhumanité, vraiment, l'inhumanité des choses au sens ontologique du terme, l'inhumanité de l'homme au sens moral du terme, l'inhumanité des choses, il faut l'assumer, et donc assumer la séparation entre l'homme et le monde, et l'ambition de se réconcilier, et les modalités de cette réconciliation éventuelle, l'inhumanité de l'homme est au contraire le propre de l'homme. Voilà. Et vraiment, il y a là deux voies, deux pistes, deux intelligences de ce mot inhumain chez Camus qui sont essentielles, à entendre.
She tries to run away, ooh, and it goes by, she comes. If there's a next time, she'll hide away because she's under both his thumbs. She limp along to his side, singing a song of ruin night. Now I guess he says nothing to it. I call it, call it, I call it suicide. Ooh, do de do de do 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 do. If when she tries to run away and he calls her back, she comes. If there's a next time, well, he's okay, 'cause she's on the both his thumb. She limp along to his side, singing a song. Suicide. When she tries to run away and he calls her back, she comes. If there's a next time, he's okay, 'cause she's under both his thumb. She limp along to his side, singing a song of ruin.
Alors Raphaël, peut-être pourrions-nous quand même un petit peu aborder cette question du suicide.
Vous voulez qu'on en vienne au début du livre?
Exactement.
Alors qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est ça?
À corps perdu dans le cœur mou du livre.
Oui, c'est vrai, on est allé dans le cœur mou du livre, absolument. C'est-à-dire, on est allé dans les pages que les gens ne lisent pas. Ce qui est fou quand on y pense. Je les tourne à cet instant. Il y a des choses magnifiques dans ce livre. Et on ne les lit pas. On ne les lit pas, on passe à côté. Ce que Camus dit de l'acteur dans le mythe de Sisyphe, c'est génial. Ce qu'il dit de Kierkegaard, c'est beau. Et tout ça est passé à l'as parce que qu'on n'a pas le temps,
parce que
c'est le milieu, parce que c'est le milieu du livre. Et vous savez, c'est très difficile de lire entièrement un livre court. Parce que quand on a un livre court dans les mains, on se dit ça va aller vite. Et puis en fait, ça va pas si vite que ça. Et du coup, c'est en général souvent les livres courts qu'on a du mal à lire complètement. Alors qu'un gros pavé, on n'a aucune illusion sur le temps que ça va nous prendre, si vous voulez. Vous avez la recherche du temps perdu. Bon, ok, vous en avez pour 5 ans avant d'arriver au bout, donc vous y allez lentement, patiemment, et en général, on essaie de rien rater. Là, le mythe de Sisyphe, on se dit ça va aller vite, mais comme ça va pas si vite que ça, et on se dit ça va être facile, et comme c'est pas si facile que ça, en fait, on saute.
Et c'est là qu'on rate des passages que nous avons, vous et moi, la responsabilité de faire entendre, Paola.
Et sur le début, est-ce qu'on peut quand même...
Allons-y sur le début.
Ben, en tout cas, sur cette question du suicide, ce que je voulais dire au tout
début... Faut relire la première phrase.
Oui, bien sûr.
Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide.
Au début de l'émission, je vous ai dit, mais comment font ces gens qui ne lisent pas le livre en entier pour comprendre cette question du suicide ? Et vous m'avez dit, ce qui compte, ce n'est pas la réponse. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait penser le suicide, en tout cas lors du premier chapitre, comme une solution à l'absurde, comme une façon d'y mettre fin. Et pourtant, si le suicide résout l'absurde, on comprend bien qu'il ne faut pas résoudre cet absurde.
Et Camus récuse le suicide. Il le dit, je récuse le suicide. Et pourtant, de la même manière qu'il pense à hauteur d'homme et que son ontologie n'est pas humaine, le suicide... Écoutez, quand le monde n'a plus de sens, quand tout est absurde, quand le monde se tait alors qu'on lui pose des questions, le suicide semble un aboutissement logique. Et c'est là que le bât blesse. Et c'est ça le coup de force de Camus. C'est de montrer que, au fond, la faiblesse, c'est la logique. Il faut, pour comprendre Camus, le premier chapitre est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Beaucoup plus difficile qu'on ne pense. C'est parce que les mots sont simples que c'est pas difficile. C'est extrêmement difficile, en fait, le mythe de Sisyphe. Et je crois, ce que je propose à nos auditeurs, que pour y entrer, il faut faire droit à ce qu'on croit savoir. Or, qu'est-ce qu'on croit savoir ? Deux choses. La première, sur le suicide. La première, c'est que on ne sait jamais vraiment pourquoi un homme se tue. On ne sait jamais vraiment pourquoi un homme se tue. Mais, deuxième élément, apparemment contradictoire avec le premier, logiquement, quand on se dit que la vie n'a plus de sens, on n'a plus de raison de vivre, et quand on n'a plus de raison de vivre, on se tue.
Logiquement.
Oui, logiquement. Donc il faut faire droit à ces deux choses-là. Un, l'énigme d'un suicide, que les gens veulent rabattre ou expliquer pour le digérer, pour le supporter, justement, surtout quand c'est le suicide d'un proche. Ou alors que un syndicat, certains syndicats ne reculent pas devant l'obscénité dans ces cas-là, un syndicat indexe sur des conditions de travail, réduit à des conditions de travail, ce qui est tout à fait scandaleux quand on y pense. Un homme qui se tue en entreprise ne se tue pas forcément à cause de l'entreprise, surtout... Le fait d'indexer un suicide sur des conditions de travail, c'est une façon d'indexer un geste intime et qui ne peut au mieux que se comprendre sur des modalités qui relèvent, elles, dans le meilleur des cas, de l'explication. C'est ce qui justifie que l'étude de Durkheim sur le suicide, les 700 pages de Durkheim sur le suicide, ne comporte pas une virgule sur les raisons pour lesquelles un homme met un jour un terme à ses jours. Le suicide résiste aux explications qu'on veut lui donner. Quand bien même on serait en période d'élection syndicale et qu'on aurait envie justement de considérer que les conditions de travail sont à l'origine exclusivement, uniquement et à 100% d'un suicide, ce qui est une façon d'amputer la liberté de celui qui s'est suicidé, en lui déniant le droit de s'être tué pour d'autres raisons que celles qui arrangent le syndicat. Mais le suicide est aussi l'aboutissement d'un raisonnement logique. Et c'est à cette logique, entre guillemets, que Camus fait droit quand il parle notamment de Kirillov, le personnage dépossédé de Dostoïevski, qui se suicide rationnellement. Alors, Camus met de côté, il faut dire aussi, les suicidés politiques. C'est-à-dire le Tibétain qui s'immole devant l'ambassade de Chine, on le comprend et on l'explique. Il n'y a pas de problème. De ce point de vue, bon, il est tout entier dépossédé de son être au profit d'une cause qui le dépasse et qui est plus importante que lui et qui justifie qu'il se sacrifie à elle.
Le suicide de Mishima ?
Le suicide de Mishima, ce que vous voulez. Dans tous les cas, dans ces cas-là, il existe une modalité explicable du suicide. Mais c'est vraiment marginal. C'est vraiment marginal. Pour le reste, il a sous les yeux, quoi. D'un côté, un homme qui se tue et on ne sait pas pourquoi. De l'autre, des personnages, notamment les personnages de Dostoïevski, qui présentent leur propre suicide comme l'aboutissement d'une chaîne logique. Or, le pire ennemi de Camus, peut-être le seul ennemi de Camus, c'est la logique, qu'il appelle également de temps en temps l'abstraction. Et d'ailleurs, à un moment, quand il parle de la peste, hein, il ne dit pas « le fléau avait repris », il dit « la logique avait repris ». Pour lui, c'est pire que tout. C'est le problème des pensées révolutionnaires pour Camus. Ce sont des pensées froides, parce que ce sont des pensées logiques, ce sont des pensées rationnelles. Et ce sont des pensées dont la rationalité, vous voyez que chez Camus tout se tient, ce sont des pensées dont la rationalité permet à ses promoteurs de justifier qu'on tue quelques hommes au profit d'un mieux-être de l'humanité tout entière. Ce sont des pensées dont la rationalité fait de l'exception humaine au sein de la neutralité ontologique du monde eh ben un objet comme les autres, finalement. Récuse cette exception humaine en considérant qu'un individu, ben, voilà, on peut le tuer si c'est la promesse d'un mieux-être pour une majorité de gens. Au fond, ce que Camus déteste ici, c'est cet utilitarisme qui voudrait sacrifier quelques vies au bien-être d'un plus grand nombre d'existences. Les intérêts d'une collectivité l'emportent sur les intérêts de quelqu'un, de quelques-uns. Cette logique-là, Camus ne la comprend pas. Camus, c'est plutôt le soldat Ryan, vous voyez. L'histoire du soldat Ryan.
Oui,
vaguement. Soldat Ryan, c'est génial, c'est un film anti-utilitariste, puisqu'on envoie 9 types sauver la vie d'un seul. Or, les 9 types en question meurent en voulant sauver celui-là. Donc, on sacrifie 9 personnes pour en sauver un. Ce qui est absurde, mais alors certainement pas au sens Camus l'entend. C'est absurde d'un point de vue utilitariste, parce que d'un point de vue utilitariste, on ne sacrifie pas 9 hommes pour en sauver un. Ça n'a pas de sens. Mais du point de vue camusien, l'absurdité consisterait précisément à ne pas partir à la recherche de cet individu qu'il faut à tout prix sauver parce que ses 3 autres frères sont déjà morts et qu'on ne veut pas que sa mère reçoive une 4e lettre. Donc cette résistance chez Camus de l'humain est également une résistance à la logique. En bonne logique, on n'envoie pas 9 types se faire descendre pour en sauver un. Mais en humanité, on le fait. Il est humaniste ici. Il est humaniste ici, encore une fois. Il y a un humanisme qui se pense hors de toute idée générale. Il y a un humanisme qui n'est pas abstrait. Il y a un humanisme, mieux, il y a un humanisme, et le mythe de Sisyphe permet de le penser, qui s'oppose de façon frontale à l'abstraction et à la logique, et aux tentations de la logique. Et c'est cet humanisme-là que Camus incarne. Merci Paola, merci François Connac, ami François, que c'est un bonheur de retrouver après ces longues vacances. Merci aussi à Cédric Châtelus, à la technique aujourd'hui. Merci à vous surtout, chers auditeurs, de nous suivre, fidèles et nombreux, sur ces sentiers délicats. Car de tous les textes que nous vous présenterons cette année, le mythe de Sisyphe est certainement, quoi qu'en disent ceux qui n'en ont pas lu le milieu, l'un des plus difficiles. Cette émission, vous pouvez la retrouver comme toutes les autres sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent bibliographie et téléchargement, ainsi que sur Facebook, à la page de l'émission bien sûr. Mais on se retrouve surtout dimanche prochain, de 16h à 17h, pour la suite de nos tribulations en terres absurdes, et pour y parler plus précisément de la différence entre le suicidé et le condamné à mort, mais aussi de l'idée que Camus se fait du métier d'acteur, de Sisyphe enfin, qui donne son nom à un livre où son nom n'apparaît qu'au dernier chapitre. Thank you. Dans l'intervalle, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett qui vous parlera cette semaine de Bertrand Russell, les nouveaux chemins. C'est tous les jours sur France Culture, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Pour l'heure, il est 17h sur France Culture. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'Atelier du Pouvoir, avec Thomas Vieder et Vincent Martini aux manettes.